avec une telle diversité, les saints. C'est vrai, c'est ça qui est merveilleux. Et on voit comment il les conduit. Ce sera extraordinaire au ciel de voir cette sainteté, tous les saints, et de voir que tout ça est pris dans le cœur de Jésus, et que tout ça est le reflet de la très sainte Trinité. Alors la très sainte Trinité, vous voyez ce que ça doit être, puisque la source de toutes ces saintes, avec ces notes tellement particulières. Et ce sont les dons du Saint-Esprit qu'on doit voir là. Parce que Mère Thérèse, hein, c'est net, hein, elle est conduite par l'Esprit Saint. Ça n'a pas dû se passer exactement comme c'est dit, mais il y a dû avoir entre deux la patience des saints, des prières, sans voir immédiatement comment ça se fait. On voit très bien, quand on raconte, il y a toujours un abstrait. Forcément, la vie est plus complexe. Et quand on regarde Saint Jean de la Croix et qu'on regarde ce que Saint Jean de la Croix nous dit, on voit comment l'Esprit Saint a cette jalousie d'amour. Cette jalousie qui va si loin. Parce que chez Saint Jean de la Croix, c'est ça qui domine. C'est l'Esprit Saint qui le prend d'une manière telle qu'il veut qu'il soit entièrement à Dieu. Et on ne peut pas dire que l'un est plus saint que l'autre. On peut dire que des modalités de sainteté uniques. Alors je reprends la deuxième strophe, hein, parce qu'on avait commencé simplement. Et comme c'est très très riche, c'est beau de voir ça. Ô brûlure suave, ô plaie délicieuse, ô douce main, ô touche délicate, qui a la saveur de la vie éternelle, qui paie toute dette, qui donne la mort et change la mort en vie. L'âme expose en cette strophe comment les trois personnes de la très sainte Trinité, le Père, le Fils et l'Esprit Saint, accomplissent en elle cette œuvre divine de l'union. C'est donc une illustration des missions divines. Hein? Non, c'est plus facile que le nombre dans la très sainte Trinité. Et pourtant, j'allais dire, tout se tient. Ainsi, la main, la brûlure et la touche sont substantiellement une seule et même chose. Mais ces noms qu'elles donnent désignent les personnes divines en raison des effets qui sont produits par chacune d'elles. La brûlure est attribuée à l'Esprit Saint, la main au Père et la touche au Fils. Or, l'âme glorifie dans cette strophe le Père, le Fils et l'Esprit Saint en exaltant trois insignes faveurs et trois biens dont ils l'enrichissent. Parce que, en changeant sa mort en vie, ils l'ont transformée en eux-mêmes. Dieu est en vie sans mort. Le dépassement, la première de ses faveurs, est une plaie délicieuse. Ah, essayez toujours de comprendre le mystère de la charité, de l'agapé. La première de ses faveurs est une plaie délicieuse qui est attribuée à l'Esprit Saint. Voilà pourquoi elle l'appelle brûlure suave. L'amour brûle, c'est le feu. La seconde est le goût de la vie éternelle, que l'âme appelle une touche délicate, c'est le Fils. La troisième est sa transformation en Dieu. C'est là un don par lequel l'âme est largement récompensée de tout ce qu'elle a souffert. Elle l'attribue au Père. Et voilà pourquoi elle l'appelle une douce main. des effets particuliers qui lui sont attribués. Elle ne parle que d'une seule essence quand elle dit « Tu as changé la mort en vie ». Car l'action des trois personnes est une, et ainsi le tout est attribué à une seule essence. Et toutes les trois personnes ensemble, voici maintenant le premier verset. Vous voyez, c'est toute la grande théorie de saint Thomas à propos de l'action des trois et en même temps la dénomination de l'action à chacune. On appelle les appropriations. Alors lui dit tout simplement les attributs, c'est appropriations. On approprie au Père, au Fils et à l'Esprit. Alors, c'est une très très belle illustration. Merveilleuse, vécue. C'est du vécu. C'est la personne divine en nous. Par la grâce, nous avons une filiation. Notre personne divine est d'être enfant du Père, de Jésus et de l'Esprit Saint. Et donc, c'est l'âme dans son exercice divin d'amour sous le souffle de l'Esprit Saint. Et c'est comme ça que nous devons essayer de comprendre cela, même si nous ne sommes pas à la hauteur de saint Jean de la Croix. Tout acte de charité divine implique ça, s'il est sous la mouvance de l'Esprit Saint. Oui, le plus et le moins. Mais tout acte d'amour, saint Thomas n'hésite pas de dire ça, c'est pour ça que je vous le répète. Et c'est vrai, ça. C'est pour ça qu'on peut lire saint Jean de la Croix. Dire, ah, j'ai trop élevé. Mais non. On est fils de Dieu, comme saint Jean de la Croix. Et ce sont les mœurs d'enfants de Dieu, ça. Et quelquefois, ceux qui sont moins théologiens comprennent beaucoup mieux que les théologiens, parce que les théologiens disent, ah, son langage n'est pas tout à fait propre, parce qu'il a un langage beaucoup plus féminologique que celui de saint Thomas, c'est bien évident. Ah, c'est pas tout à fait thomiste, oh, c'est du néoplatonisme aussi. La fine bouche comme ça. Mais pas du tout. Il décrit une expérience d'amour. Et quand on décrit une expérience d'amour, on n'est ni aristotélicien, ni platonicien. On vit. Du moins, si on vit. C'est du vécu. Et le vécu n'est ni aristotélicien, ni néoplatonicien. C'est du vécu tout court. C'est l'expérience. L'expérience est pré-philosophique. Et l'expérience divine, elle est vécue en profondeur. Ça ne veut pas dire que c'est pas profond. Elle est vécue en profondeur. La philosophie est au service de l'homme pour que l'homme vive. La théologie est au service de l'homme pour que l'homme vive. Et l'Esprit Saint est à notre service pour nous faire vivre son amour. C'est pour ça qu'il y a trois services différents. Pas des services successifs, mais trois services différents, à des niveaux différents. Celui de la philosophie, celui de la théologie, celui de l'Esprit Saint. Par les dons du Saint-Esprit, l'Esprit Saint se met celui qui nous éduque. Donc il est celui qui exerce son autorité divine et d'amour sur nous. Et ça, de ce point de vue-là, il est à notre service. Alors, tout de suite, saint Thomas dit que par la charité, dès que nous exerçons la charité, dès que nous voulons faire oraison, nous vivons le mystère des épousailles avec le Christ. Tout de suite, le mariage mystique est vécu tout de suite. Évidemment, il est vécu autrement que si on était comme saint Jean de la Croix, tout entier brûlé par l'amour. Mais dès qu'on vit sous la dépendance de l'Esprit Saint, on vit ce mystère d'amour. Ô brûlure suave, cette brûlure, avons-nous dit, est attribuée au Saint-Esprit. Donc, dans un langage ainsi que, vous voyez, parce que attribuer, ça pourrait vous faire croire que seul le Saint-Esprit agit. Tandis qu'en disant approprié, on respecte que c'est l'action des trois, mais que cette action des trois est rapportée spécialement à l'Esprit Saint. Vous voyez, un petit peu subtil, mais c'est ce qu'on doit dire. Cette brûlure, avons-nous dit, est appropriée au Saint-Esprit, car ainsi que Moïse le rapporte au Deutéronome, notre Seigneur Dieu est un feu consumant, c'est-à-dire un feu d'amour. Bon, nous expérimentons divinement que Dieu est un feu d'amour dès que l'Esprit Saint agit au plus intime de notre âme. Or, ce feu est entouré d'une puissance infinie, peut consumer l'âme d'une manière que nous ne saurions comprendre et la transformer en lui-même quand il la touche. Il n'y a plus d'extériorité, hein. C'est ça qu'il faut comprendre. Entre l'Esprit Saint et notre âme, il n'y a pas d'extériorité. C'est l'expression de Jean de Saint Thomas, imbibitur, c'est intraduisable, imbibitur, comme l'éponge par rapport à l'océan, elle est toute imbibée d'eau, et c'est une comparaison qui fait que l'extériorité demeure toujours, de sorte qu'il faut aller beaucoup plus loin, et il faut comprendre que notre âme entièrement porté par l'Esprit Saint, par la charité. Dès que vous exercez la charité et que vous désirez exercer un acte d'amour divin qui soit plaigné, qui soit fervent, même si vous ne sentez rien, c'est ça qu'il faut bien se dire, parce qu'il y a l'épreuve de la foi. L'épreuve de la foi n'est pas pour éteindre la charité. Mais l'épreuve de la foi, c'est pour que, de fait, la charité s'exerce à notre insu. Sans que nous ayons aucune joie. Et Dieu peut demander ça aux apôtres. C'est une des grâces de la vie apostolique. Parce que c'est une grâce. C'est rude. Mais c'est une grâce. Dieu peut demander ça aux apôtres pour aider, sauver les autres. Vous voyez, c'est beaucoup plus grand d'offrir ça que d'offrir son temps, d'offrir. Parce qu'on offre ce qui en nous est le plus précieux, pas du moins pour notre conscience, ce que nous expérimentons de la manière la plus profonde. C'est le mystère de la foi et de la charité, ça. Alors, celui qui veut vivre ça, le vit. Dites-vous bien ça. C'est pour ça que c'est bon de lire du Saint Jean de la Croix. Parce que ça nous oblige de dire oui, je veux vivre de cette manière que la charité soit cette brûlure suave. C'est-à-dire que la charité s'empare de mon âme d'une manière plénière. Et j'accepte en même temps que toute l'œuvre de Dieu se fasse en moi d'une façon souterraine. Si le bon Dieu le veut, c'est le bon plaisir. C'est pas nous qui réglons. Hein. C'est pas nous qui réglons. Ce serait présomptueux. Hein. De dire au Saint-Esprit, hein, c'est bien entendu. Hein. Moi, je veux ne rien expérimenter. Et je fais ça par amour pour les âmes. Ne faites jamais ça. Mais ça peut arriver que l'Esprit Saint nous le demande. Et quand l'Esprit Saint nous le demande, ben très bien. Il faut pas pleurer sur les ruines de Jérusalem, parce que dans le temps, on a eu des grâces sensibles et puis on n'en a plus. Et faut pas se dire, ah, j'en ai plus tant que j'ai péché. Non, ce sera encore un retour sur nous. Et l'Esprit Saint nous demande à ce moment-là d'avoir une totale confiance. Et ça peut durer longtemps. L'autre jour, je disais, je ne sais plus c'était dans quoi, mais ça m'a frappé. 35 ans d'aridité absolue. Et après ces 35 ans, subitement, exactement comme si c'est passé à Saint-Jean-d'Arc, quand j'ai quitté jeudi après-midi, en 5 minutes, le ciel était nettoyé, il était complètement bleu. Complètement. En 5 minutes. C'est extraordinaire. Je pensais. Vous voyez, parce que quand un ciel de plomb comme ça, l'aridité, on voit rien. Le Saint-Esprit est vraiment très très caché. On n'a rien de temps. Dieu peut tout éclairer. Nous ne pouvons pas, alors ce que nous devons, c'est désirer l'action de l'Esprit Saint comme il le veut, selon sa modalité à lui. Or, ce feu, étant doué d'une puissance infinie, peut consumer l'âme d'une manière que nous ne saurions comprendre et la transformer en lui-même quand il la touche. Néanmoins, il ne l'embrase et ne la consume que selon la disposition où il la trouve, plus ou moins dans la mesure qu'il veut, comme aussi de la manière et à l'heure qu'il lui plaît de choisir. Et c'est surtout ça. Et c'est dit avec beaucoup de netteté. Alors voyez, tout y est. Néanmoins, il ne l'embrase et ne la consume que selon la disposition où il la trouve. Faut naître à la vie divine par l'eau, notre bon plaisir. Plus ou moins dans la mesure qu'il veut, comme aussi de la manière et à l'heure qu'il lui plaît de choisir. Comme il est un feu d'amour infini, il n'a qu'à vouloir toucher l'âme avec un peu de force, et le feu d'amour qui la consume sera tel qu'il lui semblera supérieur à tous les feux de l'univers. Chaque fois que l'Esprit Saint agit sur notre charité et sur l'exercice de charité, c'est toujours un sommet. Donc ça me paraît comme quelque chose, toujours comme chose ultime. Mais comme c'est réalisé dans la foi, il peut très bien se faire que l'Esprit Saint agisse et que nous n'ayons aucun sentiment intérieur de cette action. Parce que nous vivons dans la foi. C'est ça le mystère de la foi. C'est là où on s'aperçoit ce que c'est que la foi. S'il n'y avait pas la foi, chaque fois que l'Esprit Saint agit sur la charité, on serait brûlé. Et on aurait conscience d'être brûlé par l'action de la grâce. Tandis que Dieu peut, et il joue sur des claviers différents, nous laisser dans l'obscurité de la foi et agir d'une façon souterraine sur la charité. Voilà pourquoi, lorsqu'elle ressent cette touche, elle appelle l'Esprit Saint une brûlure. La brûlure est le point où le feu est le plus intense et le plus fort. C'est là qu'il produit le plus d'effet. Ainsi, qu'il de l'acte de cette union avec Dieu, dès lors qu'il consiste dans un feu d'amour plus embrasé que tous les autres, il porte le nom de brûlure. Parce que c'est un feu, il brûle. On voit très bien pourquoi il veut dire que brûlure, c'est l'effet de ce feu. C'est l'effet. Quand je parle de feu, je parle uniquement au point de vue objectif. Quand je parle brûlure, je parle sur la transformation que ce feu me fait subir. Donc c'est l'aspect subjectif. C'est l'Esprit Saint qui agit sur moi, qui agit sur ma volonté, qui agit sur mon cœur profond. Et comme ce feu divin transforme alors l'âme en lui-même, non seulement elle sent la brûlure, mais elle devient tout entière une brûlure de feu. Du feu ardent. Donc elle devient tout entière une brûlure de feu ardent. Or, chose admirable et bien digne d'être publiée, ce feu divin qui est si véhément et si consumant, qui pourrait détruire plus facilement 1000 mondes que le feu d'ici-bas, détruit pas l'âme qu'il embrasse de cette manière, bien loin de lui causer le moindre ennui, il la divinise dans la mesure de son amour. Il la comble de délices et en l'embrassant de ses feux et de ses ardeurs les plus suaves. Il en est ainsi à cause de la pureté et de la perfection de cet amour dont elle est embrasée par l'Esprit Saint. C'est là ce que nous racontent les actes des apôtres. Le feu de l'Esprit arriva avec une grande impétuosité et embrasa les disciples. Et ceci, d'après Saint Grégoire, se sentir brûler intérieurement de l'amour le plus suave. C'est là ce que l'Église donne à entendre quand elle dit à ce sujet « Un feu du ciel est descendu, non pour brûler, mais pour resplendir, non pour consumer, mais pour illuminer. Quand Dieu accorde de pareilles faveurs, son but est d'exalter l'âme aussi. Et ne la fatigue pas, et ne la ressaisira pas, mais il la dilatera et la comble de délices. Il ne l'obscurcit pas et ne le réduit pas en cendres, comme le fait le feu pour le charbon, mais il la glorifie et l'enrichit de ses faveurs. Voilà pourquoi l'âme lui donne le nom de brûlure suave. Et donc, comment Saint Jean de la Croix essaie de montrer cette chose très très belle, que ce feu, à la différence des autres feux, ne détruit rien. Notre âme, transformée par la charité, par le feu divin, est ennoblie. Et elle n'est pas détruite. Elle est ennoblie en ce sens que cette charité libère, dénoue. Oui, nous avons tous des conditionnements terribles, des conditionnements qui viennent limiter notre capacité d'aimer. Eh bien, ce feu intérieur qui provient de l'Esprit Saint, alors, enlève ces nœuds et libère notre capacité d'aimer tant que l'Esprit Saint est là. Dès que l'Esprit Saint n'agit plus, notre conditionnement humain redevient ce qu'il est ordinairement, c'est-à-dire quelque chose qui nous limite et quelque chose qui fait que alias, les fausses alliances. Libère ces alliages de plomb. Et l'or, étant souterrain, ne vient qu'après. Et c'est vrai, ça, c'est ça qui est très étonnant. C'est que l'Esprit Saint libère notre capacité d'aimer. Et toutes les fausses alliances qui sont en nous sont purifiées par l'Esprit Saint, par ce feu. Voilà pourquoi je dis heureuse l'âme qui a la rare fortune de recevoir cette brûlure. Elle sait tout, elle goûte tout, elle fait tout ce qu'elle veut. Tout lui réussit. Personne ne peut prévaloir contre elle, ni l'atteindre. Qui me séparera de la charité du Christ, voyez ? C'est bien ça. Une fois qu'on sait que cet amour nous lie à Jésus, et nous lie d'une façon si intense et si profonde, on sait que rien ne peut nous séparer. Et c'est ça qui donne la certitude, même si nous ne ressentons rien, parce que nous voulons rester unis. Donc elle sait tout, elle goûte tout, elle fait tout ce qu'elle veut. Tout lui réussit, personne ne peut prévaloir contre elle, ni l'atteindre. C'est elle. L'apôtre dit, le spirituel juge tout. Et il n'est jugé par personne. Donc le spirituel n'est jugé par personne et il juge tout. Mais il juge dans l'amour. C'est pas du tout un jugement de l'extérieur. Il dit encore, que votre gloire est grande, ce feu possède une force infinie qui pourrait vous consumer pour vous anéantir. Mais comme on le voit clairement, il ne vous consume au contraire que pour vous procurer une gloire immense. S'il brûle, s'il consume, c'est pour aimer plus. C'est d'aimer. Ne vous étonnez pas que Dieu élève certaines âmes jusqu'à ses hauteurs dès lors que le soleil matériel produit dans les corps des effets si merveilleux. Car selon l'expression de l'Esprit Saint, c'est de trois manières qu'il embrasse les montagnes, c'est-à-dire les saints. Cette brûlure étant donc si suave, comme nous venons de dire, qu'elles ne seront pas, d'après vous, les délices de l'âme qui sera touchée de ce feu. Elle a essayé de le raconter, mais elle ne le peut. Elle en garde estime dans son cœur et l'exalte par cette exclamation. Oh, quand elle dit plaie délicieuse. Et en passe des trois effets. Il y a la brûlure, maintenant c'est la plaie délicieuse. Après avoir parlé de la brûlure, dans un état toujours, j'allais presque dire de naïveté. C'est l'éclosion. C'est jamais répété. Ah, c'est là le point de vue beaucoup plus difficile et qu'il faut bien comprendre du reste. L'amour n'a absolument rien, il ne peut rien avoir de conventionnel. Et l'Esprit Saint libère, purification, acte passif, libère l'âme dans toutes ses capacités d'aimer, par la charité. Hein. C'est ça que fait la charité. L'habitus de charité libère notre volonté pour lui permettre un exercice beaucoup plus profond d'aimer. Comme l'habitus de foi libère l'intelligence de tous ses faux plis, de toute sa manière de penser qui est idéalisante. Alors, le don d'intelligence fait ça. Le don d'intelligence libère notre intelligence de tous ses faux plis. Et c'est ça qui est beau, c'est que ça nous donne le sens du réalisme de la grâce. La grâce est pour nous quelque chose de plus réel que notre nature humaine. C'est quelque chose de plus réel et quelque chose qui agit de l'intérieur par rapport à notre nature. De sorte que notre nature humaine est portée par cette grâce. Or, cette brûlure étant suave, comme nous l'avons dit, la plaie, évidemment, doit être suave aussi, de la sorte. La plaie d'une blessure suave sera pleine de délices, parce que la brûlure étant d'un amour suave, la plaie sera également d'un amour suave, et ainsi l'âme sera comblée de suavité. Afin de faire comprendre la nature de cette plaie, dont elle parle ici, il faut savoir que la brûlure causée par un feu matériel produit toujours une plaie à l'endroit où le feu est appliqué. On voit ça, Jean de la Croix, regardant les brûlures physiques, est immédiatement transposée de cette brûlure physique vers la brûlure divine. Il valait mieux qu'il ne soit pas médecin. Regardons ça, disons, pauvre brûlure suave, merveilleuse. Remarquez, un médecin, quand il est mystique, hein, c'est retomber, j'allais dire, sur ses pieds, au moment où il doit exercer comme chacun d'entre nous, du reste. C'est là où on reconnaît, du reste, le vrai mystique. Du faux. Le vrai mystique, au moment où il doit faire quelque chose, il le fait mieux que s'il n'était pas pris par l'Esprit Saint. Tandis que le faux, il continue sa dentelle. Oui, parce que le faux est toujours un tout petit peu comme celui qui est dans un doux rêve. Alors, oui. Là, ça va. Pas très très bien. Il somnambule. Et donc, il accroche plus le réel. Il est porté par un. C'est ça la différence entre le vrai mystique. Parce que l'Esprit Saint, source d'amour, nous donne un sens du réalisme. Tandis que, voyez, l'imaginaire supprime le véritable amour. Et alors, ça fait quelque chose qui ne va plus du tout. Ah, ne me touchez pas, je suis pris par le Saint-Esprit. Bien, je suis pris par le Saint-Esprit. Laissez-moi encore une demi-heure à planer. Parce que je plane. Je sens bien, il ne faut surtout pas. Quand l'Esprit Saint agit, il nous donne toujours un réalisme beaucoup plus fort, qui se traduit dans la charité fraternelle, tu vois, afin de faire comprendre la nature de cette plaie dont il parle ici. Il faut savoir que la brûlure causée par un feu matériel produit toujours une plaie à l'endroit où le feu est appliqué. Or, elle a cela de particulier quand elle touche une plaie qui n'a pas été produite par le feu, de la transformer en plaie produite par le feu. C'est ce qui arrive pour la brûlure d'amour. C'est vrai, ça. Parce que ça vient au-dessus. Donc c'est celle-là qui brûle en dernier lieu. C'est ce qui arrive pour la brûlure d'amour. Si l'âme qu'elle touche est déjà blessée par les plaies de ses misères et de ses péchés, ou si même elle est très saine, elle la laisse aussitôt blessée d'amour. Et les plaies qui lui venaient d'une autre cause deviennent des plaies d'amour. Toutefois, il y a une différence entre cette blessure produite par l'amour et celle qui vient du feu matériel. Je comprends une petite différence. Hein. Une différence. La plaie produite par ce dernier, ce feu matériel, ne peut se guérir que par des médicaments. Ici, il n'en est pas de même de la plaie qui vient de la brûlure d'amour, car la même brûlure qui a fait la plaie doit la guérir. Faut surtout pas appeler les pompiers, vous voyez, c'est... on voit très très bien ce que c'est, le même feu qui doit brûler et qui doit lui-même guérir. Donc, si on est brûlé, on demande au Saint-Esprit d'agir encore plus. Et c'est lui qui guérit. Car la même brûlure qui a fait la plaie doit la guérir. Elle la guérit en l'augmentant chaque fois que la brûlure d'amour touche la plaie d'amour. Elle l'agrandit de telle sorte qu'elle guérit et donne d'autant plus de santé qu'elle agrandit davantage la plaie. Car plus celui qui aime et blessé d'amour, plus il a de santé surnaturelle. Donc il a de vie surnaturelle, et de vie encore plus grande. La guérison que produit l'amour consiste à ajouter toujours de nouvelles blessures d'amour aux premières, jusqu'à ce que l'âme, enfin, soit tout entière une immense plaie d'amour. L'amour prend de la sorte, elle est complètement embrassée d'amour. Elle est devenue une plaie d'amour. Et elle est pleine de la santé d'amour. Parce qu'elle est transformée en amour. Tel est le sens de la plaie dont l'âme parle ici. Elle n'est plus qu'une plaie et néanmoins, elle est complètement saine. Bien qu'elle ne soit plus qu'une plaie, et en parfaite santé tout à la fois, la brûlure d'amour ne manque pas de remplir son office, c'est-à-dire qu'elle continue à donner à l'âme de nouvelles touches et à la blessée d'amour. Et quoique l'âme soit déjà tout entière dans les délices, saine, l'effet que produit la blessure d'amour est de caresser la blessure, la plaie, comme le fait un bon médecin. Voilà pourquoi elle a raison de dire aux plaies délicieuses. La plaie provenant de l'amour, a en elle-même source de se guérir. Et elle se guérit en faisant que l'amour aille plus loin. Ça, c'est la grande exigence de l'amour. L'amour divin seul peut faire ça. Au plaisir délicieux.
Que la
intellectuelle, soit imaginaire. Mais s'il y a une autre sorte de brûlure qui est faite sous la forme intellectuelle et qui d'ordinaire est très sublime, voici comment elle est produite. Quand l'âme est embrasée de l'amour de Dieu, sans l'être cependant au degré dont nous venons de parler, bien qu'il convienne qu'elle le soit fortement pour éprouver ce que je vis, ce que je vais exposer, il arrive qu'elle se sent attaquée intérieurement par un séraphin. Cet esprit céleste, armé d'une flèche et d'un dard tout embrasé du feu de l'amour, transperce l'âme qui est déjà tout en feu, comme un charbon rougi, ou plutôt qui n'est plus qu'une flamme. Il la brûle d'une manière sublime. En même temps, il la transperce de son dard. Et alors, la flamme de l'âme s'agite et monte aussitôt avec force, comme celle d'une fournaise embrasée lorsqu'on y attise le feu. Aussi, quand l'âme est brûlée par ce dard enflammé, elle sent une pleine délice inexprimable. Sainte Thérèse exprime la même chose. Ça, c'est l'action plus immédiate de l'Esprit Saint, plus directe. Mais c'est du même ordre, en ce sens que nécessairement, quand on parle, on emploie un symbole, le symbole de la plaie, le symbole du dard. Alors, c'est ça qui est important à saisir, c'est que le symbole de la plaie montre le feu qui brûle. Le symbole du dard exprime l'amour ordonné vers celui qui nous attire et qui nous aime, et qui a la capacité de tout capter en vue de cela. Donc, c'est la charité qui ordonne, c'est la charité qui prend tout et qui oriente tout vers ce qui est essentiel. Il y a les deux aspects, l'aspect extatique et l'aspect plus immanent de réceptivité. Vous voyez, on voit très bien que par ces symboles, on retrouve ces deux aspects de l'amour. L'aspect extatique, il nous fait sortir de nous. Et l'aspect d'une immanence plus profonde, où l'amour entre plus avant vis-à-vis de nous.